Chapitre 3. Monsieur Cibreux était le fils cadet d'un notaire de Ploërmel. Un oncle maternel, son parrain, lui avait légué sa propriété des Trois Chênes, où il vint habiter aussitôt après son mariage. Le rapport qu'il en retirait, joint à la dot rondelette de sa femme, lui constituait de jolis revenus. De ce fait, et aussi parce qu'il occupait nombre de gens du pays à la culture et à l'élevage, les deux sources de sa fortune, il était une des personnalités importantes de Pellecoat et de ses environs. Brave homme, d'intelligence médiocre, mais cordial et prêt à rendre service, il était généralement sympathique. Mais on n'aimait guère sa femme, poseuse et froide, orgueilleuse de sa fortune, ni ses enfants, trop gâtés, déjà dédaigneux de tout ce qu'ils jugeaient au-dessous d'eux. Une cousine germaine de M. Cibreux avait épousé un Péruvien, Esteban Talmez, qui exerçait à Lima la profession de médecin. Elle mourut peu après la naissance de Luz, en faisant promettre à son mari, dont elle prévoyait le prochain remariage, de confier l'éducation de l'enfant à ses parents de France, tout au moins jusqu'à sa 15e année. Esteban tint parole, et voilà pourquoi Luz se trouvait aux Trois Chênes, élevée avec sa cousine Claire, sous la direction de Mademoiselle Élise. Celle-ci était la seule qui comprit la petite nature vive et aimante, pas très facile, mais droite, généreuse et toute pétrie de riches promesses. M. Cibreux témoignait à sa nièce une bonté paternelle, mais, en général, ne s'en occupait guère. Mme Cibreux se montrait assez souvent sèche et impatiente à son égard. Le gros Albert ne savait que la taquiner sournoisement. Quant à Claire, dont Mademoiselle Élise essayait vainement de combattre l'égoïsme, elle s'arrangeait toujours pour mettre sa cousine en avant et rejeter sur elle toute la faute quand elles avaient fait à elles deux quelques sottises. Luz, néanmoins, restait affectueuse et gaie. Aussitôt après ses fréquentes colères, elle demandait gentiment pardon alors que Claire s'éternisait dans la plus sombre bouderie. Et quand il lui arrivait de frapper sa cousine au cours d'une dispute, elle en témoignait un ardent repentir. « Oh, c'est vrai, que je suis méchante !» disait-elle en jetant ses bras autour du cou de Claire. Mademoiselle Élise songeait. « Ce sera plus tard une délicieuse nature, physiquement et moralement. Mais, en grandissant, elle souffrira de ne pas trouver dans sa famille des sentiments qui répondent aux siens. » En attendant, Luce semblait se trouver parfaitement heureuse, en dépit des gronderies fréquentes de la tante Germaine. Cependant, depuis le jour des rois, quelque chose paraissait la tourmenter. Un après-midi, elle se promenait seule avec Mademoiselle Élise. « C'est très vilain à ma tante Germaine d'avoir laissé partir comme cela le petit garçon du château. » Mademoiselle Élise, qui était de cet avis, répliqua néanmoins « Vous n'avez pas à juger les actes de votre tante, ma petite. D'ailleurs, cet enfant a été un peu brusque, un peu trop susceptible. » « Mais non, il avait bien raison. J'ai entendu ce qu'a dit Albert et j'ai vu la grimace de Claire. Je lui aurais donné une claque pour la peine. Eh bien, voilà du joli. » Là-dessus, Mademoiselle Élise sermonna fermement son élève. Mais aujourd'hui, Luce ne se laissait pas convaincre. Elle répétait, en secouant ses boucles brunes, « C'est très vilain. Je voudrais revoir le petit garçon pour lui dire que j'ai eu beaucoup de peine. » Mais elle n'apercevait Hoël que de loin en loin. L'enfant semblait éviter avec le plus grand soin les habitants des Trois Chênes. Le dimanche, il assistait à la première messe et c'était en vain que Luz le cherchait parmi les petits garçons du patronage, assis dans le chœur à la grande messe. « Il est très fâché !» pensait-elle avec chagrin. « Comme c'est ennuyeux !» À la fin de mars, Claire tomba malade de la grippe. Elle commençait à peine à se remettre lorsque Mademoiselle Élise et Albert furent pris à leur tour. Luz se vit dès lors un peu négligée, ce qui n'était pas pour déplaire à sa nature indépendante. Et un beau matin, elle se trouva seule sur le chemin de Kerlozo, où elle avait résolu de se rendre pour voir Hoël. Un joli chemin qui s'en allait tout tortueux entre des haies où déjà s'annonçait le printemps. Des violettes se cachaient dans l'herbe des fossés. Luz en cueillait au passage et en aspirait le parfum discret. Elle croisa le père Lemiro. Décidément, on le rencontrait toujours quand on faisait quelque escapade. et donna une caresse à son chien qui marchait gravement derrière une chèvre d'âge vénérable, paisible et presque aveugle. Le vieux eut un rire semblable à un gloussement et marmotta dans sa barbe grise et sale. « Eh, la petite demoiselle, on se promène donc toute seule maintenant ?» En se redressant fièrement, Luz riposta. « Bien sûr, je suis assez grande pour ça !» Le père Lemiro rit encore en montrant largement sa mâchoire édentée. Luz, mécontente, pressa le pas en continuant sa route. Elle ne l'aimait pas du tout, ce vieux bonhomme, avec ses paupières rouges, sa vilaine barbe, ses cheveux longs, sur lesquels tante Germaine et mademoiselle Élise jetaient des coups d'œil de défiance quand elles rencontraient le vieillard. Et avec ça, il avait l'air de croire qu'elle ne pouvait pas se promener seule. Quel impertinent ! Enfin, voici Kerlozo. Encore une montée, assez raide, et Luz atteignait le pont jeté sur les douves, où frémissait toujours une eau limpide, jaillie d'une source qui se trouvait sous la cour du château. Le soleil de mars chauffait les débris de remparts, les restes croulants d'une tour, la sombre masse du château que Luz apercevait par la porte ouverte, au-delà du pont. L'enfant hésita un instant, un peu impressionné. Jamais elle n'était venue si près de la féodale demeure. Que c'était vieux, et noir, et triste. Puis elle se demandait ce que dirait M. Pendegui s'il la voyait. Un jour, elle l'avait aperçu et l'avait trouvé d'aspect peu engageant, avec son visage maussade, ses gros sourcils, sa barbe mal tenue et cette vieille houppelande verdie qu'il portait depuis sa jeunesse, affirmait-on dans le pays. Eh bien, tant pis. Si elle le rencontrait, elle lui dirait bien poliment « Je viens voir votre petit-neveu, monsieur. » Il ne devait pas être un ogre, ce vieux marquis. Autrement, on le saurait dans le pays. Donc, il n'y avait rien à craindre. En s'encourageant ainsi, Luz franchit le pont. Devant elle s'étendait une cour dont le sol disparaissait sous l'herbe. À droite se dressait la ferronnerie d'un puits. Sur la margelle moussue était assis Hoël, occupé à écrire. Luz, à sa vue, jeta un petit cri de joie. « Ah, quelle chance !» Hoël eut un léger sursaut et demeura pendant un instant immobile, stupéfait, les yeux fixés sur la petite créature vêtue de blanc qui courait vers lui, ses boucles brunes flottant autour de son visage ambré. « C'est moi, Luz, qui viens vous dire que vous êtes mon roi, que j'ai été bien fâchée, qu'Albert et Claire sont très sots. » Elle parlait d'une voix un peu haletante en tendant à Hoël sa toute petite main. Lui, surpris, hésitant, n'avançait pas la sienne. Luz dit, d'un ton inquiet, « Est-ce que vous êtes fâché ?»« Oh, pas contre vous, bien sûr. Vous êtes très gentille. » Cette fois, il prenait la main offerte et la serrait doucement. Ses yeux, bleus en ce moment, regardaient Luz en souriant. Elle dit d'un ton joyeux, « Ah, tant mieux! Ils ont été méchants pour vous, les autres, mais ça n'empêche pas que je suis votre reine, et puis que vous m'avez tiré de l'eau froide où j'allais mourir. Alors, vous comprenez, je suis très en colère parce qu'on vous a fait de la peine. » Hoël leva les épaules et un pli de dédain souleva sa lèvre. « Oh, je n'y pense plus guère. Ce sont des sots comme vous dites. Il n'y a que vous qui êtes une bonne petite. » Luz s'assit près de lui sur la margelle. Il objecta. « Ce n'est peut-être pas prudent. Ne remuez pas trop. Le puits est profond, profond, et si vous y tombiez, je ne pourrai pas vous repêcher comme l'autre jour. »« Oh, je veux voir. Tenez-moi bien pendant que je regarde. » Elle se pencha au-dessus de l'ouverture béante et se rejeta en arrière dans un mouvement d'effroi. « Que c'est noir! Et on voit l'eau tout au fond, tout au fond !» « Vous n'avez pas peur de tomber dedans ?»« Non, j'en ai l'habitude. » Luz se pencha curieusement vers le papier qu'Hoël tenait dans sa main gauche. « Qu'est-ce que vous écrivez? Vous faites vos devoirs ?»« Non, ce sont des vers que je fais pour mon plaisir. » Luz dit d'un air connaisseur, « Ah oui, je sais, mademoiselle Élise nous en donne à apprendre. J'en sais déjà beaucoup. Voulez-vous que je vous dise le loup et l'agneau ?» Et sans attendre la réponse, Luz commença la fable de la fontaine. Elle la disait de façon charmante, avec d'amusantes petites mines à l'appui. Et Hoël riait en l'écoutant. Sa main droite tenait le bras de la petite fille pour que celle-ci ne risquât pas de choir dans le puits. Autour d'eux, le soleil glissait de grandes bandes lumineuses sur l'herbe de la cour et sur les vieux murs noirs. Le chien pelé rôdait dans l'ombre d'une ouverture en ogive dont la porte pendait au dehors, presque séparée de ses gonds. Tout était silencieux, tout parlait de ruines et d'abandon. Méluse ne se laissait plus impressionner par la sombre mélancolie de ce décor. Elle était très contente de voir Hirohel, qu'elle avait toujours vu sérieuse ou triste, elle ne savait trop. En terminant la fable, elle demanda « Est-ce joli ?»« Très joli, et vous la dites tout à fait bien. » Luce déclara, en petite personne qui connaît déjà ses talents, « On me fait toujours des compliments quand je la récite, mais maintenant, ma tante ne veut plus. » En confidence à l'oreille d'Oël, la petite fille ajouta « Je crois que c'est à cause de Claire qui est jalouse. » Oël demanda « Claire, c'est la petite fille qui était avec vous quand vous êtes tombée à l'eau ?»« Oui, Claire, ma cousine. » Oël déclara sans embâge « Vous êtes beaucoup plus gentille qu'elle, c'est une chipie. » « Oh, pas toujours, je l'aime bien, Claire. Nous jouons ensemble, nous nous disputons quelquefois. » Puis, sans transition, Luce demanda « Dites, vous allez me réciter des vers, des vôtres ?»« Si cela vous fait plaisir. » Très simplement, Oël dit quelques strophes. Il y était question des landes bretonnes, du troupeau de moutons, du vieux chien hargneux. Construction de phrases et prosodie se ressentaient du jeune âge de l'auteur. Mais à travers cet essai, de bons juges eussent senti passer le souffle de l'inspiration et de l'originalité qui fait les grands poètes. Luce battit des mains. « C'est très bien. Est-ce que c'est difficile de faire des vers ?»« Mais cela dépend. Moi, je ne trouve pas. » Il s'interrompit. Au seuil de la porte principale du château venait d'apparaître M. de Pendegui. Il descendit d'un pas pesant les trois marches usées conduisant à la cour, tout en jetant un vague coup d'œil sur les deux enfants. Ceux-ci s'étaient levés. Poliment, quand il passa devant eux, Luce dit « Bonjour, monsieur !» Le vieillard, s'adressant à Oël, demanda d'une voix grêle « Qui est cette petite ?»« La nièce à monsieur Cibreux, mon oncle. » « Et que fait-elle ici ?» Ce fut Luce qui répondit avec vivacité « Monsieur, je venais dire encore merci à votre neveu qui a empêché que je me noie dans l'étang. »« Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu ne m'as pas dit cela, Oël. » Le garçonnet eut un geste d'insouciance. Une sorte de sourire souleva la lèvre supérieure de M. de Pendegui, laissant voir sa gencive édentée. Oui, pour un Pendegui, c'est tout naturel d'être brave, de compter pour rien sa vie. Tu as raison, mon garçon. Bonjour, petite. » Il passa, courbé, ratatiné dans sa vieille houppelande. Luce le suivit des yeux. Quand il fut hors de la cour, elle demanda à mi-voix, en levant son petit visage songeur, « Est-ce qu'il est méchant, votre oncle ?»« Méchant, mais non. »« C'est qu'il a l'air !» Elle ne trouvait pas de mots pour exprimer sa pensée. Un doigt posé au coin de sa bouche, elle regardait pensivement Oël, dont les yeux prenaient une teinte d'un vert profond. « Il est bon pour vous, alors ?»« Bon, mais non, il n'est pas bon. Il ne s'occupe pas de moi, il ne m'aime pas. Mais il me laisse faire ce que je veux. » Luce convint. « Ça, c'est bien agréable. Moi, il faut que j'obéisse toujours. Mais Mademoiselle Élise est très bonne. Tante Germaine aussi, quelquefois. » Oël demanda avec intérêt. « Vous n'avez plus votre maman, vous non plus ?» « Non, je n'ai plus que papa, mais je ne le vois jamais. Il est très loin, dans l'Amérique, avec ma belle-mère et mes deux petites sœurs. Moi, je n'ai plus personne. » Les yeux verts devenaient tristes et songeurs. D'une voix plus lente, Oël ajouta « Autrefois, j'avais maman. Elle m'aimait beaucoup, elle m'embrassait souvent. Et puis, elle est morte tout d'un coup. » Une petite main tiède et douce se glissa dans la sienne. « Oh, que c'est triste! Maintenant, personne ne vous embrasse plus !» Oël secoua négativement la tête. « Et votre papa ?»« Il est mort au Sénégal de la fièvre jaune. C'était un officier. Je n'ai plus d'autres parents que mon grand-oncle. Heureusement, il y a monsieur le recteur qui m'aime bien. » et moi aussi je vous aimerai. Dites, vous voulez ? Hoël eut un de ces rares sourires qui éclairaient sa physionomie rêveuse. Mais oui, je veux bien. Et il ajouta, après un instant de réflexion, j'aurais été content d'avoir une petite sœur comme vous. Le chien jaune traversait la cour et venait à eux. Hoël appela. Kenok ! L'animal s'approcha. Sa tête aux poils rugueux, aux yeux ternis, s'offrit à la caresse des doigts fins de son petit maître. Luz demanda. Il est très vieux ? Oui, il ne sert plus à grand-chose pour la garde des moutons, car il devient sourd et aveugle et il marche difficilement. Mon oncle parlait de le faire abattre parce qu'il ne lui rend plus de service et qu'il faut le nourrir quand même. Alors je lui ai demandé de le laisser mourir tranquillement en lui disant que je me chargeais de sa nourriture. Tous les jours, je garde pour lui une partie de mon pain, puis la bonne de monsieur le recteur me donne des os, des débris de viande. Comme cela, il ne manque de rien, ce pauvre Kenok. Ses doigts flattaient le museau humide, caressaient les oreilles pointues. Le chien grogna de satisfaction. Luz le considéra d'un air perplexe. Elle le trouvait bien vilain, ce Kenok. Cependant, son bon petit cœur, naturellement porté à la pitié, était capable de comprendre le sentiment de compassion et d'attachement qui faisait agir Hoël. Si je pouvais, je lui apporterais aussi quelque chose. Mais c'est trop loin de la maison à ici. Et puis, tante Germaine ne voudrait peut-être pas. Elle resta un instant silencieuse, regardant le chien qu'Hoël caressait d'un geste machinal. Puis, passant à une autre idée, subitement, elle demanda d'un ton de prière câline. « Voulez-vous bien me faire voir votre château ? Albert dit qu'il y a de grands trous noirs où on mettait les prisonniers. » « Les oubliettes ? Oui, je ne demande pas mieux. Donnez-moi la main pour ne pas tomber, car il y a un peu partout des pierres qui se sont détachées. » Puis, se ravisant, il demanda « Mais sait-on chez vous que vous êtes ici ?»« Non, je suis venu sans rien dire. Mademoiselle Élise est malade et tante Germaine soigne Albert qui a la grippe aussi. Alors on va peut-être vous chercher et puis vous serez grondé. » Luz secoua ses boucles brunes. « On ne s'occupe pas de moi en ce moment. Je peux faire ce que je veux comme vous. Montrez-moi vite les oubliettes. » Elle glissait ses doigts dans la main d'Hoël. Hoël, sans se faire prier davantage, l'emmena vers l'une des tours, à demi ruinée, qu'un lierre énorme couvrait de son feuillage sombre. Là se trouvaient les oubliettes. Luz se fit donner des explications et déclara à Hoël que les marquis de Pendegui d'autrefois étaient de bien méchantes gens pour avoir mis de pauvres hommes dans ces affreux trous noirs. Il le faisait seulement quand il s'agissait de très grands criminels. Ainsi, mon oncle m'a raconté qu'il y avait autrefois, dans le pays, un homme très méchant qui guettait tous les petits-enfants, les emmenait chez lui et les tuait. Luz l'interrompit par une exclamation d'effroi. « Oh, est-ce qu'il est mangé comme l'ogre du petit poussé ?» Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais un jour, le seigneur de Kerlozo, avec ses hommes d'armes, passait près de la maison quand il entendit des cris. Bien vite, il défonça la porte et vit l'affreux homme prêt à égorger un petit garçon qui criait, demandait grâce. Il le fit prendre par ses serviteurs, emmener au château et jeter dans une oubliette. Puis, après l'y avoir laissé quelque temps, il en fit sortir et le condamna à être pendu. Luz écoutait de toutes ses oreilles. Ce vieux château commençait à l'intéresser énormément. Aussi accepta-t-elle avec enthousiasme l'offre que lui fit Hoël de lui montrer la salle des gardes, la salle de justice, bien conservée et très imposante, où se voyait une immense cheminée de pierre, la tour des ducs, dont M. de Pendegui avait transformé le rez-de-chaussée en salle des archives. C'était là qu'il passait la plus grande partie de son existence, avec ses deux chats qui se couchaient sans façon sur les parchemins jaunis. Luz fit observer en reniflant « Comme ça sent drôle, ici !»« Je crois bien, mon oncle ne veut jamais qu'on ouvre les fenêtres ni qu'on nettoie. Aussi, voyez !» Il montrait les vitres des étroites fenêtres, opaques à force de couches de poussière et de toiles d'araignée. Ça fait bien l'affaire de Perrine qui déteste les nettoyages. Mais quand on sort d'ici, on a joliment du plaisir à respirer. En dernier lieu, il mena Luz au donjon qui croulait à petit bruit sous son revêtement de feuillage. Elle questionnait, s'intéressait à tout, avec une intelligence très éveillée. Hoël, complètement conquis par la petite charmeuse, voulut l'accompagner jusqu'à une courte distance des trois chênes, afin d'être bien sûr qu'il ne lui arriverait rien. En quittant le garçonnet, Luz déclara « Vous savez, il faudra venir me dire bonjour quand je me promènerai avec mademoiselle Élise. Elle est très gentille et trouve que vous avez l'air très... Je ne sais plus comment elle a dit, mais c'était un mot comme un compliment. » Hoël secoua sa tête blonde. Subitement, son visage se rembrunissait. « Non, vous, je veux bien, mais pas les autres. Je suis mal habillée, j'ai l'air d'un pauvre et on a honte de moi. Eh bien, je reste de mon côté, je n'irai plus les gêner. Quand je vous verrai, je vous dirai bonjour de loin. Comment vous appelez-vous ? » « Luz. » « Luz, c'est un drôle de nom. » « Un nom du pays de papa. Et vous, c'est Hoël ? » « Oui, Hoël. Au revoir, Luz. Au revoir, Hoël. » Ils se serrèrent la main gravement. Luz s'en alla vers les trois chênes, toute contente d'avoir fait plaisir à son jeune sauveur, car elle lui avait fait plaisir, cela se voyait très bien. Et Hoël la regarda s'éloigner de son pas menu. Les yeux verts s'éclairaient d'émotions pensives. Cette sympathie enfantine était douce au cœur un peu farouche, un peu fermé, qui avait jusqu'ici ignoré l'amitié. Et puis, elle était irrésistible, cette jolie petite Luz. Comme ses yeux parlaient! On y voyait toute sa charmante nature, vive, spontanée, affectueuse. Quelle différence avec l'autre, sa cousine, cette blonde qui faisait des grimaces! Et en pensant à sa petite visiteuse, Hoël reprit le chemin de Kerlozo.